RCF.
Bon début de journée à tous, il est 7h30, le journal présenté par Thomas Dulin. Bonjour Thomas.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Après la Suède, l'Italie bascule à son tour à l'extrême droite.
Giorgia Meloni, la chef du parti Fratelli d'Italia, revendique la victoire. Sa coalition obtient la majorité des sièges à la Chambre des députés et au Sénat. Le budget 2023 présenté ce matin en Conseil des ministres et le gouvernement prévient déjà, il fera usage du 49-3 pour faire passer le texte à l'Assemblée. Après les représentants de l'islam et du judaïsme, la ministre déléguée aux professions de santé reçoit aujourd'hui Mgr Dornelas sur la question de la fin de vie. Et puis c'est l'éternelle question pour les métropoles de taille moyenne, comment redynamiser les centres-villes? On se posera la question en fin d'édition. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais la tendance semble claire. L'extrême droite sort grande gagnante des élections législatives italiennes. Le parti post-fasciste de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, pourrait rafler jusqu'à 26% des suffrages, un score qui peut monter à 43% en comptant les deux autres partis de la coalition, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi. Les précisions de Florian Perret.
C'est un score historique pour l'extrême droite italienne. Pour la première fois depuis 1945, un parti post-fasciste pourrait gouverner le pays. Car avec 43% des suffrages, les trois partis de la coalition s'assurent, avec le jeu complexe des circonscriptions, la majorité absolue des sièges aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat. À 45 ans, Giorgia Meloni devrait donc prendre la tête de cette coalition et former un gouvernement. Jamais une femme n'avait occupé ce poste en Italie. Pourtant, la chef du parti Fratelli d'Italia revient de loin. Elle n'avait recueilli que 4% des suffrages il y a 4 ans lors des dernières législatives, en menant une campagne axée sur sa devise « Dieu, patrie, famille ». Et en surfant sur une abstention à plus de 30%, Giorgia Meloni est parvenue à enjamber le barrage contre l'extrême droite. Elle s'apprête à mener une politique ultra-conservatrice, anti-système et anti-immigration. Mais dans une prise de parole cette nuit, Giorgia Meloni a tenté de rassurer en affirmant qu'elle gouvernait pour tous les Italiens.
Précision, Florian Perret est parmi les réactions en France, celle du président par intérim du Rassemblement National. Les peuples d'Europe relèvent la tête et reprennent leur destin en main, écrit sur Twitter Jordan Bardella. La députée France Insoumise Clémentine Autain parle de son côté d'un moment tragique. Le président iranien serre la vis après plus d'une semaine de manifestations. Ebrahim Raisi a appelé les forces de l'ordre à agir fermement contre les protestataires qui se mobilisent depuis la mort d'une jeune femme de 22 ans interpellée par la police des mœurs. Au moins 41 personnes ont perdu la vie dans les manifestations.
C'est le premier grand test de la rentrée du gouvernement.
Après un mois de septembre présenté comme un temps de concertation, l'exécutif doit présenter aujourd'hui son projet de loi pour le budget 2023. Un texte qui promet des discussions animées au Parlement entre députés de la majorité et opposition. Bouclier tarifaire, super profit, fiscalité des collectivités, les points chauds sont nombreux. Et puis à travers ce premier rendez-vous à l'Assemblée nationale, c'est aussi les méthodes du gouvernement qui vont être scrutées, Baptiste Madinier.
Et par les méthodes, on pense bien sûr au 49-3 et il semble à ce jour inévitable avec un gouvernement sans majorité absolue à l'Assemblée et des oppositions qui semblent pour l'instant peu enclines à voter ce texte. Tour à tour, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne ou encore Gabriel Attal ont martelé qu'ils n'écartaient pas cette option tout en essayant de banaliser son utilisation car recourir au 49-3 mettrait à mal la nouvelle méthode voulue par le gouvernement à travers notamment les dialogues de Bercy, c'est-à-dire la concertation. Sur le fond du texte, les débats devrait notamment s'animer sur la question du bouclier tarifaire. Pas sûr que les 45 milliards de l'État pour plafonner les factures à plus 15% suffisent à calmer la gauche. Remonter à bloc sur cette question. La NUPES qui va aussi essayer de ramener une nouvelle fois la question de la taxation des super-profits sur la table des négociations. Autre mesure fiscale qui devrait faire débat, la suppression programmée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Taxe à destination des collectivités locales. Alors après la suppression de la taxe d'habitation, c'est une nouvelle source de revenus qui disparaît pour les élus locaux qui sont déjà dans le rouge après le Covid et la crise énergétique.
Merci Baptiste Madinier. Et en plus de ce budget général 2023, c'est celui de la sécurité sociale qui doit aussi être présenté aujourd'hui. Le gouvernement qui hésite toujours à faire passer par amendement certaines mesures de la réforme des retraites dans ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Accusé depuis plusieurs jours de violence morale envers son ex-conjointe, Julien Bayou annonce qu'il démissionne de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de la présidence présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Il a publié un communiqué il y a quelques minutes.
Il est 7h35. Lentement mais sûrement, l'épidémie de Covid regagne du terrain.
Et oui, hein, Clara, cela ne fait plus de doute. Nous vivons depuis quelques jours le début de la 8e vague. Plus de 30 000 cas positifs en moyenne par jour. 1 million de tests en une semaine. Le Covid qui revient encore et toujours. Il va falloir s'y habituer, explique l'épidémiologiste Yves Buisson.
C'est le passage de l'état de pandémie à l'état d'endémie. Alors ça ne se fait pas brutalement du jour au lendemain. C'est une évolution progressive qui peut s'étirer sur plusieurs mois et puis qui n'a pas la même vitesse suivant les continents et les pays. Mais on va arriver à cette transition, surtout s'il n'apparaît pas de nouveaux variants encore plus transmissibles, encore plus dangereux que ceux que nous avons vus passer les uns après les autres. Eh bien, on va effectivement arriver à cet état endémique avec des recrudescences saisonnières hivernales. Ça ressemblera beaucoup à la grippe. On aura peut-être des petites poussées épidémiques en dehors de l'hiver, on ne sait pas. Donc il faudra s'attendre à cela et probablement prévoir, comme on le fait pour la grippe, de vacciner les personnes les plus à risque au moment de l'automne pour qu'elles soient protégées contre les variants qui circulent le plus.
L'épidémiologiste Yves Buisson. L'hôpital de Corbeil-Essonne porte plainte après avoir été victime d'une cyberattaque. Un groupe de hackers a rendu public hier des milliers de données médicales de patients et de personnel de l'établissement. Ils ont mis leur menace à exécution après un piratage daté du mois d'août dernier. Ils réclamaient une rançon de 10 millions d'euros qui n'a pas été versée.
Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président de la Conférence des évêques de France.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort est attendu à l'Élysée à partir de 17h30. La rencontre est prévue de longue date, mais le sujet de la fin de vie devrait être au cœur des discussions. Dans le même temps, l'archevêque de Rennes, Monseigneur Dornella, sera reçu par la ministre déléguée chargée des professions de santé, Agnès Firmin-Lebodo. Le gouvernement continue de consulter les cultes après l'annonce du lancement de la convention citoyenne et l'avis du comité éthique ouvrant la voie à une aide active à mourir strictement encadrée. Des cultes plutôt défavorables à une évolution de la loi, Étienne Pépin.
Oui, les responsables des cultes sont unanimes. Avant de faire évoluer la loi et de légaliser l'euthanasie, il faut absolument, comme le rappelle d'ailleurs le CCNE dans son avis, développer les soins palliatifs en France. Monseigneur Dornelas, le responsable du groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France, s'interroge, lui, sur le sens de la fraternité. Comment appeler fraternel le geste qui donne la mort à son frère qui la demanderait? Ce n'est pas dans le brouillard qu'on discerne le projet de société à édifier, dit-il. Le président de la Fédération protestante de France, le pasteur Christian Krieger, redoute, lui, qu'une éventuelle évolution législative vers l'euthanasie soit principalement motivée par des raisons économiques ou idéologiques, faute d'avoir les moyens de faire du palliatif. Enfin, pour Haïm Korsia, le grand rabbin de France, la légalisation de l'euthanasie serait une rupture anthropologique, frisant l'eugénisme. La fracture entre les tenants et les opposants de l'aide active à mourir n'est pas religieuse, assure-t-il. Elle est entre ceux qui ont accompagné des malades et savent ce que c'est, et ceux qui ne savent pas.
Précision d'Étienne Pépin.
Et puis Thomas, comment redynamiser les centres-villes?
C'est la grande question que se posent des centaines de villes moyennes en France qui voient leurs rues commerçantes désertes face à la concurrence des grandes surfaces et d'Internet. Plus de 3 milliards d'euros ont déjà été engagés dans le programme Action Cœur de Ville, lancé en 2018 par le gouvernement et prolongé jusqu'en 2026. Un colloque a lieu à Paris aujourd'hui à ce sujet, organisé par la Fédération Nationale des Centres-Villes et Vitrines de France, fédération présidée par Jean-Pierre Lehmann.
On constate très souvent que les centres-villes commerçants sont aussi grands qu'ils étaient dans les années 80, à une époque où il n'y avait pas la périphérie, où il n'y avait pas Internet et où quand on voulait acheter quelque chose, il n'y avait pas un seul endroit où on pouvait aller ailleurs que dans le centre-ville. Donc il faut reconfigurer ces centres-villes de façon cohérente, de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles par tout moyen, voire à pied. Ils créent ensuite une ambiance. Ensuite, ce grand magasin centre-ville, appelons-le comme ça, il faut regarder ses rayons, c'est-à-dire quelles sont les choses qui manquent, qu'est-ce qui est en trop, en fonction de l'évolution des modes de consommation qui est galopante. Les consommateurs sont en train de changer tous les jours en fonction de tas d'éléments. Et donc, il faut avoir une flexibilité, une souplesse absolument extraordinaire.
Jean-Pierre Lehmann, président de la Fédération Vitrine de France. En football, l'équipe de France inquiète à moins de 2 mois du Mondial au Qatar. Les Bleus se sont inclinés 2-0 hier soir face au Danemark en Coupe des Nations. Il s'agissait de leur dernier match avant le début de la Coupe du Monde. Et puis lui défie les limites de l'endurance. Le Kenyan Eliud Kipchoge a battu hier son propre record du monde du marathon à Berlin. Il a bouclé les 42 km en 2h01min09s. C'est 30 secondes de mieux que son précédent record de 2018.
Merci beaucoup Thomas Dulin. Tout de suite, à suivre les trois questions A de votre rédaction locale.